Et place à Philippe Quentin qui, dans les circonstances aujourd'hui, vous est présenté un petit peu plus tard qu'à l'habitude. Tu nous en excuseras, Philippe. Un lendemain de veille quand même assez occupé où on s'est partagé entre football et hockey. Ouais. Et bonsoir d'abord.
Quelle belle soirée ce fut quand même.
Wow, tu peux être
extraordinaire.
Mais en. Permets-moi juste de dire une chose. J'ai pas eu le temps de passer l'extrait du balado. Je fais juste inviter les gens à aller soit sur la presse, chez nous 98.5 ou encore Google Balado, Apple Balado. Notre dernière Sortie de zone est en ligne et disponible pour écoute avec Philippe aujourd'hui. Maintenant, je ne voulais pas couper l'élan. Oui, non. Quelle soirée, quelle magnifique soirée hier, quel match qui nous a tenu en haleine jusqu'à la toute fin. Puis c'est ça qu'on demande d'un rendez-vous comme celui-là. Puis c'est l'équipe qu'on souhaitait voir gagner qui l'emporte en
plus. Tout à fait. Ça, écoute, qui aurait pensé à ça après trois quarts? Les 49ers menaient 20 à 10 puis dominaient le match. Là. Le momentum était de leur côté. Puis les Chiefs semblaient un peu perdus sur le terrain. Patrick Mahomes, ça ne fonctionnait pas trop ses passes. Puis là, bang! Tout à coup, un gros jeu de 44 verges qui relance les Chiefs. On marque un toucher, on revient dans le match. Puis là, on a senti les 49ers tranquillement, la confiance s'effriter. C'était assez magique de voir ça. Mais tu sais, au-delà de ce match qui est mémorable, là, parce que c'est tout un retour que les Chiefs ont réussi. Je pense que c'est un match qui passe à l'histoire au Québec. Tu sais, je regarde les commentaires ce matin que j'ai reçus. J'ai écrit une chronique sur le match dans la presse de ce matin. Je regarde les courriels que j'ai reçus, l'affection des gens pour Laurent Duvernay-Tardif. Je me souviens pas, ça fait très longtemps, je pense, qu'un athlète, Mario, a généré une telle affection au Québec. On voit ça parfois durant les Jeux olympiques, mais durant les Jeux olympiques, il y en a souvent plusieurs, tu sais. Alors, c'est comme un peu partagé. Il y a un Charles Hamelin fait un exploit un jour, puis deux jours après, c'est un Michael Kingsbury, tu sais. Alors, on passe d'un athlète à l'autre, mais dans une fenêtre de temps, là, d'une semaine ou deux semaines, de voir quelqu'un qui génère autant d'attention que Laurent Duvernay-Tardif, puis autant de commentaires admiratifs, je me souviens pas de ça, probablement depuis l'époque où Jacques Villeneuve a remporté son titre de champion du monde en Formule 1 en 1997.
Et ce qui me frappe dans la comparaison que tu établis, puis c'est vrai qu'il faut vraiment creuser là, pour voir qui a été au centre de telles expressions de comment dirais-je, d'admiration, ouais. C'est qu'on parle d'un joueur de ligne au football.
Ouais.
Normalement, des fantômes sur un terrain, sauf s'ils font des erreurs. Et entre un pilote de Formule 1 et la visibilité qu'on a dans un rôle comme celui-là, ou d'un joueur de tennis, un Félix Auger ou un Shapovalov, tu sais, Laurent est un rôle où il était au service de sa collectivité, de son quart arrière, un rôle humble. Et c'est spécial que...
Ouais.
Tu sais, qui laisse cette mais son heure de gloire en quelque sorte.
Ben,
là,
le fait qu'il soit médecin, évidemment,
ben,
explique
oui.
Ça en grande partie. C'est un parcours académique sans faute, une réussite extraordinaire sur ce plan-là. Combine avec ça une carrière d'athlète d'élite. Puis oui, c'est vrai, là, c'est un joueur de ligne, on le remarque pas pendant un match, c'est pas un receveur de passe, c'est pas un corps arrière, mais il en reste pas moins que hier, les gens ont voulu le voir jouer.
Oui.
Puis je sais pas si tu as été comme moi, mais moi, à chaque jeu, j'ai regarder
oui.
Le numéro 76 à chaque jeu offensif pour voir s'il faisait le bloc, puis bon, s'il allait être contourné ou pas. Je pense que j'ai jamais regardé un match de cette façon-là auparavant. T'sais, on est comme tout le monde, on regarde sa télé, ben on regarde le corps, puis le receveur de passe, puis le porteur de ballon.
Le Québec donc, jouait sa ligne hier.
Ouais. Puis tu sais, j'ai l'impression qu'il a senti ça à quelque part, Laurent Duvernay-Tardif, que l'appui des gens, l'appui que les gens lui portaient. Puis tu sais, j'ai trouvé ça beau après, quand il a donné son entrevue à RDS, puis il a raconté que oui, il voulait, tous les joueurs des Chiefs voulaient gagner ce match-là pour Andy Reid, puis là, lui, il a ajouté, puis on voulait le gagner pour Kansas City, mais on voulait le gagner pour le Québec et le Canada, puis là, il a ajouté, je suis tellement content de ramener ça à Montréal. Alors, le fait qu'il se, tu sais, que ses racines soient aussi présentes dans son quotidien, qu'il a hâte de revenir à Montréal, puis on connaît son implication communautaire ici avec sa fondation, puis tout ce qu'il fait, je pense que ça, c'est venu nous chercher, c'est venu nous toucher. On est fiers de lui, c'est-tu pourquoi? Parce qu'on sent qu'il est fier d'être Québécois. Il est fier, lui,
oui.
De nous représenter aux États-Unis. Il est fier de nous représenter sur cette grande scène sportive qu'est le Super Bowl. Puis ça, les gens le sentent. Alors, il se crée à ce moment-là un lien, une espèce d'osmose. C'est assez fantastique de voir ça. Je lisais les commentaires des politiciens, par exemple, sur Twitter, toute famille politique confondue. Tout le monde le félicite. Tout le monde le trouve extraordinaire. Tu sais, je le qualifiais, c'est le médecin le plus populaire du Québec, même s'il pratique pas sur une base phase régulière, mais il a accompli quelque chose qui nous fait rêver. Et le sport, au fond, les héros sportifs, c'est ça, c'est à ce niveau-là qu'ils sont à leur mieux. C'est quand ils nous font rêver, puis on dirait que toute l'histoire a été magique jusqu'au bout. Tu sais, t'en parlais tantôt... Quand il a salué sa famille sur le terrain, c'était beau de le voir avec sa mère, puis son père, puis sa mère qui est en pleurs, puis sa blonde qui est là. T'sais, il y avait quelque chose de profondément... c'était émouvant, mais émouvant le fun. Là,
ben
émouvant
oui.
Qui te transporte, puis tu dis, hey, mon Dieu, la vie est belle ce soir. T'sais. La vie est donc magnifique ce soir. Alors, c'est dans cette époque troublée avec tout ce qui se produit sur
on
la
prend
terre.
Ce qui passe.
Oui, c'est ça, exactement.
En matière d'émotions semblables. Oui,
ouais, ouais. Puis alors, lui, nous a apporté, au fond, il nous a apporté quoi? Il nous a apporté un moment de bonheur. Puis qui dans la vie nous apporte des moments de bonheur? C'est quand même assez rare quand tu penses à ça, des gens qui sont capables d'apporter un moment de bonheur à autant de gens en même temps. C'est quelque chose d'assez unique. Et moi, je trouve que ça, c'est la marque des grands athlètes qui sont là au bon endroit, au bon moment, mais qui décident, puis ça aussi c'est important, qui décident que tu as le droit de fêter avec eux. Tu sais, Guy Lafleur était comme ça. Quand Guy Lafleur gagnait des Coupes cette année, tu avais le droit de fêter avec lui. Tu sentais ça. Laurent Duvernay-Tardif, il est dans le même moule de ce côté-là.
Ben, j'aime beaucoup l'ensemble de ton propos puis ton commentaire. Puis je vais reprendre un peu la conclusion de ton propos pour faire un lien avec le Canadien. Puis c'est ça qui fait si mal. Quand le Canadien ne nous apporte pas le bonheur collectif qu'on aimerait toucher ou avec lequel on aimerait flirter parce que c'est une organisation qui, dans le passé, nous l'a procuré si souvent sans toujours gagner la coupe. C'est pour ça que c'est difficile de voir une équipe faire du surplace pendant autant d'années consécutives parce que on le sait ce que c'est. Tu sais, j'entends des gens, je parle avec des amis, même affaire pour toi, Philippe, tu sais, qui me disent, ah, moi, mon gars, j'ai jamais vu le Canadien jouer un match en série ou peu, ou si peu ou si souvent. On a hâte de regoûter à ça, hein?
Ah, ben, on a hâte.
Ça sera pas cette année, mais on a hâte.
Non, ça sera pas cette année, puis on se demande ça va être quand, là, tu sais, bien sérieusement, parce que là, tu sais, t'en parlais plus tôt dans l'émission avec Daniel Brière, puis t'en as parlé avec Danny aussi. Tu sais, c'est inquiétant un peu là, de voir Kotkaniemi. Je comprends, il va aller retrouver sa confiance à Laval, puis c'est une bonne affaire, puis il aurait dû y aller avant, puis tout ça. Ouais, fantastique, j'applaudis à deux mains, moi aussi. Mais Mario, il en reste pas moins que c'est inquiétant. Là. T'sais, on s'attendait à une
Qu'est-ce
progression.
Qu'est-ce qui t'inquiète, les prises de décision, l'évolution du talent?
Ben, un peu tout, t'sais, je veux dire, on s'attendait à une progression de lui en deuxième année. T'sais,
ben ouais.
Il était supposé avancer, peut-être pas avancer de façon extraordinaire, peut-être pas, on savait tous qu'il ne deviendrait pas le pilier de l'équipe à sa deuxième saison, mais on s'attendait probablement pas à ce que tout à coup, à la mi-saison, on se dise, écoute, faut que tu t'en retournes dans la Ligue américaine, t'es pas capable de suivre le rythme. Mais ça, donc, c'est inquiétant. Puis ça ramène tout un ensemble de questions. Tu les as évoquées un petit peu plus tôt, mais c'est des questions qui sont tellement pertinentes. Est-ce que le Canadien a choisi le bon joueur? Est-ce que le Canadien a choisi à ce repêchage-là une position, c'est-à-dire un gros joueur de centre dont on rêve depuis 25 ans à Montréal? Ou ils ont choisi le meilleur joueur disponible? Ils n'ont peut-être pas choisi le meilleur joueur disponible au bout du compte pour privilégier une position. Ça, il y a toujours un risque à faire ça. Alors, on verra bien. Moi non plus, je n'ai pas démissionné sur Kotkaniemi. Je le sais, il est jeune puis il peut rebondir et tout. On est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un signal d'alarme. Là, à tout le moins, là, on s'entend là-dessus.
Oui. Et peut-être même, je ne sais pas, tu sais, je ne veux pas surinterpréter, mais on sent peut-être le garçon réagir aux commentaires émis, puis qui était tout à fait correct et lucide, je pense, les commentaires de Claude Julien sur pourquoi il doit retourner à Laval. Le garçon qui dit que ça a été son match le plus agréable de l'année, en quelque sorte, qu'il se sent appuyé, qu'il se sent. Ouais. Mais il va falloir qu'il joue de la bonne façon pour revenir. Puis le commentaire, as-tu entendu le commentaire de Brendan Gallagher en fin de conversation avec Martin McGuire?
Rappelle-le-moi, s'il vous plaît.
Il est long un peu pour te le refaire jouer, là, mais je vais essayer de te le résumer. On l'a fait jouer, je pense à vous. Brendan Gallagher. Regarde, non, je vais te le résumer bien vite. Il dit que, tu sais, ton temps de glace, là, it must be earned. Mm-hmm. Tu dois le mériter. Il dit rien de négatif sur le kid, là, mais je veux dire, je suis pas sûr qu'il a mérité beaucoup de son temps de glace depuis qu'il est ici. On lui a donné un peu tout cuit dans le bec. Et je pense que c'est cet ordre des choses-là qu'il faut rétablir aussi, là. Alors, moi, j'ai senti ça, puis c'est le commentaire d'un leader, là. C'est Gallagher qui parle, là.
Et pour qu'il le dise, ça veut dire que ça a dû faire jaser un petit peu dans l'équipe.
Ben,
ça,
voyons.
Pour qu'il arrive puis qu'il le mentionne, là, oups, ça veut dire que c'est pas la première fois qu'il pense à ça, là, Brendan Gallagher.
Non, puis il disait pas de façon à être... tu connais Gallagher.
Ouais.
Il cherchait pas à semer une controverse. Il dit juste que c'est une bonne affaire, le kid a du talent qui sort par les oreilles, mais ça va être bon en ce sens-là, puis qu'il revienne mériter son temps de glace. Moi je pense que c'est pas un commentaire banal, là.
Non. T'as entièrement raison. On connaît tous l'influence de Brendan Gallagher dans cette équipe-là. Là, quelque part, c'est lui le leader de l'équipe. On le voit, il apporte une énergie qui est unique. Alors, quand il dit quelque chose, ça a du poids. Ça a énormément de poids. Maintenant, il faut souhaiter que Kotkaniemi lui-même comprenne ce message-là. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aimé Daniel Brière un petit peu plus tôt qui disait, tu sais, faut jamais que tu oublies quand ça va bien que t'es pas aussi bon que tu le sembles, mais quand ça va mal, t'es pas aussi mauvais que tu le sembles. Puis là, lui, il va probablement falloir qu'il se mette ça dans la tête aussi, parce qu'il demeure un bon joueur de hockey, mais il a peut-être pensé trop vite qu'il était comme arrivé, tu sais, que sa place maintenant, trio régulier, Ligue nationale. Et là, le désabusement peut être assez raide, merci, à encaisser. Et là, il en est là. Alors, comment il va rebondir? C'est la grosse question. Mais tu sais, tu regardes ça pour le Canadien. Tu sais, on nous a dit que c'était une année où l'apport des jeunes allait certainement être un gros plus. C'était un peu ça, l'espoir en début de saison. Puis là, tu regardes ça, puis bon, Fleury est retourné à Laval, Kotkaniemi à Laval, puis Poehling, tu sais, en toute logique, devrait suivre bientôt aussi. Alors, il y a des problèmes dans le développement de tous ces jeunes qu'on souhaite arriver au plus haut niveau. Puis moi, ça me fait un peu craindre pour l'avenir. D'une part, parce qu'on ne sait pas encore jusqu'à quel point ils vont donner aux Canadiens ce que le Canadien attend d'eux. Mais c'est aussi le fait que j'ai l'impression que les attentes sont aussi surdimensionnées envers des gars comme Romanov et Caulfield. T'sais, moi, je pense qu'il
faut... On pèle par en avant, Philippe.
Ouais. Il faut vraiment attendre. On voit combien c'est dur de trouver sa place dans la Ligue nationale.
Merci beaucoup, mon cher. Et je te dis à plus tard cette semaine pour notre prochain rendez-vous amateurs de sport. On va se revoir dans les corridors d'ici là, évidemment.
C'est ça. Salut, Mario. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée à toi aussi. Dans un instant, Enoch Mouamba, ses impressions sur le Super Bowl également, un ancien de la NFL et des Colts.